Bonjour à tous, on se retrouve pour un chaud devant spécial Ubisoft. Et je suis pas toute seule, je suis avec Romain. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors Romain qui est notre triple champion du quiz Nintendo au TGS, non, si je ne me trompe pas dans le titre.
C'est l'idée, mais c'est pas exactement le sujet qu'on a en tête aujourd'hui avec les annonces du Summer Game Fest du Ubisoft Forward.
Exactement, là nous on va parler d'Ubisoft aujourd'hui. Ah, il y a eu pas mal d'annonces, ils nous ont vendu du rêve quand même hein, cette année là.
Et pas de remake, sans remake. C'est qui est assez surprenant pour le coup. Ça, vu dans la même veine, les annonces Capcom, les annonces Nintendo qu'il y a eu un peu plus tard, il y en a pas mal. Mais là, tout ça sans remake, ce qui est assez frais pour le coup, assez
ouais,
sympa.
Ouais, il y a quand même le côté Assassin's Creed où ils en ont parlé un petit peu de faire des versions VR, mais bon, je sais pas trop si on peut appeler ça des remakes. On est peut-être plus sur des adaptations pour le coup.
Je l'appellerais plus ça des adaptations que des remakes.
Ouais, alors le premier jeu. Qu'ils nous ont annoncé, c'est bien parce qu'ils ont ouvert un petit peu en... Comment on appelle ça ? J'ai plus l'expression en tête. En trombe avec Avatar, Frontier of Pandora. Alors, je crois que t'as vu un petit peu, toi, la BA.
Effectivement, oui, bah, c'est quand même, on fait nos petites recherches avant cette émission, quand même. Mais,
ah
ouais,
bon ? T'es censé faire des recherches ?
Mais ouais, c'est... Alors, c'est effectivement démarrage en trombe, puisque c'est quand même un jeu qui... tiré d'une des plus grosses licences du cinéma qu'on a vu cette dernière décennie, malgré le fait qu'il n'y a que deux films. C'est du coup, et surtout avec James Cameron, quand même, qui a participé au processus créatif, ce qui est assez gros pour être souligné, quand même, surtout pour un jeu à licence, puisque Dieu sait que les jeux tirés de films à la base, bon, je pense qu'on a tous eu ces jeux Disney quand on était gosse qui étaient passables au plus, quoi. Mais ouais, surtout pour... Ce qui est surtout le plus intéressant, c'est que c'est pour moi le style de jeu qui aurait pu le mieux s'adapter à la série. C'est un jeu du coup en open world, style un peu Horizon Zero Dawn ou Breath of the Wild par exemple. Même si mon Tears of the Kingdom serait plus approprié, mais bref. Et surtout, mais ce qui les différencie par rapport à ces deux jeux, c'est qu'ils rajoutent un peu une dimension FPS auquel on.
Ouais. Je suis d'accord, les FPS chez Ubisoft, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'en voir, alors je sais pas si c'est une question...
Je pense que c'est plus toi qui ne sais pas...
Je pense que c'est aussi moi qui n'ai pas l'habitude encore d'en voir.
Typiquement, chez Ubisoft, on a Rainbow Six Siege, qui est un des plus gros e-sports du... Enfin, pas un des plus gros e-sports, qui... Non, quand même, un assez gros e-sport du moment, en plus de la série Far Cry, ce qui m'a rappelé pas mal cette série, justement, on en avait parlé un peu hors micro.
C'est peut-être plus sur ce type de jeu, tout ce qui est action RPG. Je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup en FPS.
Ouais, c'est effectivement, oui, c'est vrai que c'est. Il y a une dimension RPG par exemple dans les Far Cry, mais c'est vrai que on a. Je pense qu'il n'y a pas une aussi grosse dimension que dans ce jeu-là, parce que là, c'est quand même, on voit une assez grosse. Même dans le trailer, on voit une assez grosse liberté de gameplay, que ce soit avec des armes plus classiques de Navi comme les arcs ou les trucs comme ça, ou alors avec des armes plus humaines comme tous les shotguns, bazooka qu'on a l'habitude de voir justement dans un Far Cry ou dans un FPS plutôt classique. Mais c'est quand même justement une bonne opportunité d'explorer cet univers qui est aussi passionnant pour nous dans le film et qui est aussi une... Je pense que je vais pas trop m'avancer si je dis que c'est une des plus grosses raisons du succès de ces films, c'est l'univers qu'il présente.
Ah, c'est l'univers, c'est la force. Et il y a l'air d'avoir une grosse liberté de gameplay aussi, donc je pense qu'il y a un peu cette volonté de toucher en fait quand même un public assez large pour que chacun puisse un petit peu trouver sa façon de jouer.
Effectivement, et aussi, justement, en parlant d'immersion aussi, dernier petit truc qui différencie un peu ce jeu comparé à ce que j'ai annoncé, enfin ce que j'ai comparé précédemment avec Horizon et Zelda, c'est que c'est un jeu à la première personne. Et c'est assez rare pour le souligner dans un jeu d'aventure comme ça, surtout dans un monde qui a l'air aussi, quand même aussi vaste et... Alors ça aussi, petit truc, c'est aussi vertical. Je sais pas si tu l'as remarqué dans les trailers.
Je pense que je vois un petit peu ce que tu veux dire.
Avec les îles flottantes, trucs comme ça, c'est un truc assez vertical. Et même dans Tears of the Kingdom, par exemple, il y a un peu de verticalité, mais c'est surtout sur deux gros niveaux. Enfin, du coup, le sous-sol et les îles célestes. Alors que là, si on regarde le trailer, il y a beaucoup de pentes, de descentes, etc. Ouais. Et ça a l'air assez intéressant à explorer pour le coup.
Oui, et puis il y a quand même cette liberté qui est donnée aux joueurs de pouvoir soit jouer plus sur Terre, soit jouer plus dans le ciel, parce qu'il y a tout un truc avec les animaux, les montures, les iclans, je ne sais plus exactement le nom.
Je crois que c'est ça, mais je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet.
En fait, il y a vraiment un truc de se mettre dans l'univers du film, surtout que l'histoire, elle est originale, mais elle est canon par rapport aux histoires des films, en fait.
Très, très, très bien, d'ailleurs, ça, de ne pas avoir repris une des deux histoires des films, je trouve que c'est une excellente décision de leur part. Et bon, évidemment, encore une fois, avec James Cameron au processus créatif, on peut s'attendre à une histoire qui respecte très bien les films. Et aussi, enfin, bon, après, évidemment, il y a les inquiétudes habituelles sur ce genre de jeu, à savoir, c'est bien de faire un gigantesque monde, mais s'il n'y a rien à faire dedans, voilà.
Bah, c'est les ambitions, en fait. C'est oui, tout le truc. C'est vrai que là, le jeu a l'air quand même d'être assez ambitieux. Il nous donne quand même un peu le choix d'avoir une grosse, grosse liberté de gameplay. On a à la fois bah, le côté exploration, il y a le côté... comment dire, bah le côté combat, le côté gestion, il y a toute une dimension aussi craft, parce qu'il y a oui. tout l'aspect cuisine, et puis il y a des paysages, on nous montre des paysages très variés, des personnages très variés aussi, donc ça doit être... Et j'ai l'impression qu'il y a une dimension un peu infiltration, quasi-infiltration aussi par moment.
C'est possible ? Alors ça, encore une fois, c'est peut-être aussi l'influence Far Cry,
ouais.
Parce qu'effectivement, ça c'est plus dans les Far Cry 3 par exemple, ou 2, que dans les modernes. C'est que justement dans les bases que tu étais censé prendre, dans ce jeu-là, il y a aussi visiblement des bases humaines dont tu peux prendre le contrôle. Tu avais toute une dimension de est-ce que je veux attaquer ça de façon plus discrète ? Est-ce que je veux arriver vraiment je prends mon shotgun, j'explose tout, quoi. Mais là, effectivement, ça a l'air presque d'être un successeur spirituel à ça. Et honnêtement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner.
Ouais, je suis curieuse, mais c'est surtout plus pour l'univers, pour le coup. Parce qu'on a, pour expliquer un petit peu la trame narrative, on a un personnage qui est des deux côtés, entre guillemets. Donc, qui a vécu en tant qu'avatar, mais du côté de la race des Terriens, et qui a été cryogénisé pendant 15 ans, et qui se réveille, en fait, dans un autre monde. Et là, elle se retrouve plus à défendre Pandora. Et ça, en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que justement, on a ces deux dimensions de sa personnalité et que ça se joue un peu, ça va jouer sur le gameplay et ça joue sur les capacités en fait qu'on peut débloquer là de ce que j'ai vu.
Après, à voir si aussi ça se joue au niveau de l'histoire, même vu la façon dont c'est présenté, ça m'étonnerait quand même qu'on pourrait rejoindre les humains par exemple.
Je pense que l'histoire est assez simple.
Ouais, ça me surprendrait pas.
Et assez simple pour que justement, à mon avis, ça nous laisse quand même la liberté d'explorer.
Ouais, je pense que c'est une bonne chose effectivement de pas non plus trop forcer.
Oui, surtout qu'il est déjà très très ambitieux, ouais. Là, rien que d'un point de vue gameplay.
Ouais, je pense que tenter de forcer une double histoire comme ça, ça aurait pu potentiellement surcharger un jeu qui a l'air déjà assez complet.
Et ce qui est intéressant, c'est aussi de tout donner cette dimension de connexion. C'est comme les navis peuvent se connecter spirituellement aux plantes, aux animaux, on peut faire ça en fait. Et ça, du coup, ça, je pense qu'ils vont se servir beaucoup de ça pour développer le lore. À mon avis.
Alors oui et
je me demande s'il n'y a pas un petit truc à jouer là-dessus.
Alors oui et non, parce que je pense honnêtement que ça va surtout être utilisé par exemple pour découvrir des trucs, genre des recettes ou des trucs comme ça, je pense que ça va surtout être utilisé pour ça.
Mais après, ça dépend, parce que s'il y a James Cameron qui a participé au processus, oui, après, peut-être qu'il peut en profiter aussi pour développer le lore.
Si à chaque fois que tu découvres un ingrédient, il y a un peu de lore dessus et tout,
ça alimente quand même.
Ça alimente pas mal, oui, ça me dérangerait pas que ce soit le cas pour le coup, mais je m'attends pas vraiment à une connexion avec la nature, genre la métamorphoser ou quoi non plus à ce point-là. Mais même si c'est juste une sorte de découverte d'ingrédients ou quoi, mais que t'as du lore en plus, honnêtement, ça peut déjà être assez intéressant pour les fans hardcore du film. Dieu sait qu'il y en a.
Et puis ça dépend si c'est une première, tu sais, un premier truc entre guillemets pilote, ou à voir s'ils auront envie ensuite de
faire une saga de jeu Avatar, ouais. En espérant qu'elle mette pas autant de temps que les deux films.
Ça dépend, le prochain en tout cas il arrivera en 2024,
ouais.
Alors pour le coup, alors, au niveau des plateformes, on est sur PC, PS5 et Xbox Series X, donc clairement nouvelle génération.
En même temps, je pense qu'une Switch ne pourra pas tenir
ça va être compliqué.
Ne pourra pas tenir ça,
le
ouais.
portage va être compliqué. Et ça sort le 7 décembre 2023, donc en fin d'année.
À voir pour les cadeaux de Noël,
pour mettre sous le sapin. Alors un jeu, alors là, pour le coup, j'ai pensé à toi, le deuxième jeu qui a été annoncé, parce que c'est un jeu de plateforme, c'est Prince of Persia, The Lost Crown, le retour de la franchise.
Après 13 ans d'absence, ce qui m'a fait effectivement extrêmement, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, effectivement, puisque bon, on en a déjà parlé, grand fan de platformer, et même si là, ce serait plus, je pense que on en a parlé, justement, j'approcherais plus ça à un Metroidvania avec une dimension plateforme.
C'est ce qui était expliqué pour le coup.
Mais du coup, je vais me permettre de me lâcher un peu sur le sujet.
Vas-y, lâche-toi.
Et du coup, ça arrive justement à peu près en même temps que le remake de Sands of Time, qui est du coup probablement le jeu le plus connu de la franchise. Et du coup, même si là, ils veulent chercher à revenir sur les bases un peu de la série avec un Metroidvania 2D. D'ailleurs, un jeu en 2D, ce qui est assez rare pour être souligné, et de la part d'un studio AAA qui n'est pas Nintendo ou Sega, et qui s'éloigne un peu du parcours 3D des derniers opus, comme le Reboot ou Sands of Time, justement, qui était plus similaire à un Mirror's Edge à la troisième personne. Mm-mm. Et là, du coup, justement, en prime aussi, on a un rapprochement avec entre justement ces derniers, les plus anciens opus et les nouveaux, puisqu'il y a l'air d'y avoir des petits pouvoirs temporels et distorsions de l'espace qui sont présents et enfin, qui étaient présents dans les derniers titres de la franchise et qui vont servir visiblement surtout à résoudre des puzzles, etc. Ce qui peut être assez intéressant et qui, encore une fois, rapproche des origines de la série, même sur micro-ordinateur ou sur NES, Super NES, qui avait beaucoup plus cette dimension un peu exploration puzzle qu'on a un peu perdu, je trouve, avec les derniers opus, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Les deux derniers jeux de la franchise étaient d'excellents platformers 3D. Bon, le reboot avait ses problèmes, surtout narratifs, mais bon, on va pas non plus faire tout un débat là-dessus. Mais voilà, c'est personnellement c'est une annonce qui m'avait beaucoup hypé.
Moi, j'ai trouvé les décors très très beaux. Enfin, visuellement, je le trouve vraiment magnifique
Il est
pour le
effectivement,
coup.
ouais, il est vraiment beau, surtout pour un jeu. Après, bon, c'est pas vraiment de la 2D, c'est plus de la 2.5D.
Ouais.
Mais effectivement, les décors avaient l'air vraiment magnifiques, avaient l'air magnifiques pour le coup, même si je ne vais pas le cacher. Au début, j'ai cru que c'était le jeu Assassin's Creed qui était prévu, mais j'ai été très agréablement surpris d'avoir eu tort pour le
Les
coup.
deux sont très liés dans leur histoire,
Oui,
hein, au
c'est.
final. Le premier empruntait beaucoup. Et, alors, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, aussi, ils vont mettre apparemment tout le gameplay va un petit peu jouer sur le temps, sur la gravité. Mais de ce que j'ai vu, ce qu'on a vu un petit peu le gameplay, notamment tout ce qui est combat de boss et tout ce qui est plateforme, il y a l'air quand même de proposer une certaine technicité, tu vois, au
Oui,
niveau des
effectivement.
puzzles. Ouais.
Il y a clairement un skill ceiling qui va être assez intéressant, qui va être intéressant à explorer pour le coup. Franchement, c'est un aspect que j'adore dans les jeux comme ça, quand il y a quand même des mécaniques qui permettent un peu de profondeur. Je pense par exemple à Hollow Knight, qui est
Ouais.
un jeu que j'ai adoré et dont le système de combat a énormément de potentiel à être optimisé, à être accéléré. Les speedruns de ce jeu sont une
Ouais.
joie à voir pour le coup. Enfin, je sais pas si tu en as déjà vu pour le coup.
Je connais les speedruns, ouais, mais
Ouais.
j'en ai jamais vu dans Hollow Knight.
Mais franchement, si jamais ça t'intéresse, je te le conseille, puisque les combats de boss sur ce jeu sont insane en speedrun,
Ouais.
vraiment. Et il y a des modes qui ont été créés sur des jeux comme ça pour faire des boss plus compliqués, pour clairement exploiter ce système de combat. Après, je m'attends pas à autant de profondeur non plus, mais c'est déjà intéressant d'avoir des mécaniques qui permettent un peu de. Enfin, qui sont
Oui, de
clairement pas de la
les
surface, quoi.
pousser. Bah, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien, c'est quand on met des mécaniques assez simples à comprendre. Parce
Mais
qu'une
dur à
fois que
ma
tu les as comprends, oui,
mais
c'est
dur à
les
maîtriser, ouais.
easy to learn et
Et hard to master,
hard to
oui,
master. Voilà, c'est
exactement, ouais.
ça. Et ça, c'est pas mal,
Meilleur
ce
type
genre
de
de.
difficulté à mes yeux.
Oui, bah, c'est les difficultés évolutives et c'est les difficultés qui, une fois que tu as bien intégré, enfin, qui demandent en fait de bien intégrer le concept de gameplay. Et alors, c'est une histoire originale
Oui,
aussi.
aussi. Après, c'est loin d'être surprenant puisque toutes les histoires de Prince of Persia étaient originales, si je ne dis pas de
Donc c'est pas du
bêtises.
tout un remake, c'est vraiment
Non,
c'est un reboot, c'est
c'est
plus un
clairement pas un
ouais.
remake. Même si d'ailleurs, justement, j'ai hâte de revoir Sands of Time, qui avait une excellente histoire à mes yeux. Même si, bah évidemment, elle avait ses défauts, mais c'est probablement une des seules histoires à voyage temporel que j'ai trouvé vraiment intéressante.
C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire. Ah, quoi que, parce que quand tu
Oui,
me dis
en jeu
en
vidéo.
jeu vidéo, quand tu dis voyage temporel en jeu vidéo, c'est vrai que moi les premiers trucs que j'ai, c'est. Ah, j'ai plus le nom, c'est les studios Dontnod. Il avait beaucoup fait par Life is Strange.
Life is Strange, oui.
Voilà, il avait
Ah oui,
beaucoup.
c'est vrai, oui, c'est vrai. Je
Même si
pense le cas ces dernières
c'est
années.
plus particulier pour le coup.
C'est vrai. Bah, c'est un
C'est.
jeu à choix, donc
Ouais, c'est un jeu narratif.
à partir de là,
Donc on n'est pas
c'est.
sur du action RPG. Enfin voilà,
Exactement,
on
oui.
n'est pas. C'est
Ouais.
encore. C'est vrai que, ouais, ça c'est intéressant à voir. Et alors, on est sur un monde semi-ouvert.
Oui, après ça c'est le de base, si c'est un Metroidvania, c'est un
C'est un monde
monde semi-ouvert,
semi-ouvert,
oui.
ouais.
On s'y attendait un peu, mais c'est pas une mauvaise chose du tout.
Et alors pour le coup, là où j'ai, au niveau des plateformes, ils l'ont annoncé sur PC, Switch, PS4.
Oui, pas d'Xbox, qui est
Non, pas
un peu
Xbox encore.
snobé, un peu snobé, mais c'est pour le coup celui-là, c'est pas du tout étonnant qu'il sorte sur Switch. C'est le genre de jeu que les joueurs Switch adorent, et en plus il a pas l'air trop
Oui.
gourmand graphiquement.
Bah, j'ai l'impression que la Switch, elle est quand même pas mal optimisée pour les jeux de plateforme.
Bah après c'est Nintendo, c'est normal. Mais
Oui, tu me diras, c'est logique.
c'est surtout qu'en fait ce jeu de en fait c'est surtout qu'elle est optimi enfin surtout qu'elle est pas optimisée pour les jeux ultra réalistes avec vraiment beaucoup de
Ouais, je suis
détails.
d'accord.
Alors que là, ce jeu-là, c'est un jeu qui a un style un peu plus cel-shaded et qui a l'air du coup bien plus facile à tenir pour un PC bas de gamme ou une Switch.
Alors, ils l'ont prévu pour le 18 janvier 2024.
On a le temps.
Donc c'est le nouvel an.
On a le temps, on a le temps.
Voilà, après Noël, le nouvel an. Et alors, on peut vous passer, eh ben, la bande-annonce du gameplay. pour le coup, parce que ça donne une idée un petit peu de la BO. Et puis là, on est sur une... Parce que j'ai beaucoup aimé la BO et les chara-design.
Les chara-design, effectivement, oui, surtout du prince en lui-même. Sont,
ouais. Ah, je le trouve vraiment très, très cool.
Il a l'air effectivement assez sympa.
La caractérisation se ressent bien, en fait, dans son chara-design, pour le coup.
Mais tu as une bonne idée de à quoi il va, de sa personnalité, rien qu'en le voyant.
Ouais, rien qu'en le voyant. Et ça, c'est, pour le coup, c'est bien réussi. Petite parenthèse, le gameplay, il a l'air extrêmement agréable à jouer quand même.
Il y a l'air d'y avoir un excellent game feel, oui. Après, à voir avec la manette en main, mais c'est déjà quand le gameplay a l'air plaisant, rien qu'en le voyant, il a l'air plaisant à jouer, c'est un bon signe.
C'est vrai. Alors, je vais juste finir avec le synopsis, et après, bah, là, je te laisserai le micro pour parler de The Crew. Alors,
ça,
le synopsis de ce Prince of Persia. Inspiré des métronomites Vanilla, qui met en vedette Sargon, un jeune guerrier doué, membre d'un groupe d'élite appelé les Immortels. Alors que les Immortels sont envoyés en mission pour sauver le prince Ghassan, ils explorent le mont Kaf, un endroit autrefois merveilleux, mais désormais maudit et hostile. Sargon et ses frères d'armes découvrent bientôt que le temps lui-même est leur ennemi, l'équilibre de l'univers tout entier est en jeu.
Rien que ça.
Ça a l'air très épique. Hein,
après,
pour le coup.
Dans tous les Prince of Persia, même j'y reviens à Sands of Time puisque c'est un peu l'icône de la franchise, mais c'était un peu pareil. Il faut revenir au palais parce que sinon le vizir il va inverser le cours du temps lui-même. Donc c'est pas si surprenant que ça qu'on revienne à une histoire comme ça. Encore une fois, ça a l'air justement d'être un mix du gameplay des vieux jeux, histoire des nouveaux un peu. Mais ouais, du coup, c'est le moment où je me suis fait plaisir.
The Crew Motorfest, hein, c'est jeu de voiture, c'est des jeux où je suis pas du tout dedans, donc là, pour le
et
coup,
moi,
je
suis,
te laisse
pour le coup, vachement dedans. Que ce soit, du coup, ouais, que ce soit, par exemple, Need for Speed Unbound ou alors Forza Horizon 5 qui sont sortis récemment, que j'ai absolument saigné. Pour moi, ça a été justement une des plus grandes surprises de cette Ubisoft Forward, The Crew Motorfest, surtout parce que, à mes yeux, The Crew 2 était assez décevant, tout simplement parce que les trois types de gameplay qui étaient proposés, voiture, bateau et avion, étaient tous les trois un peu plats dans le sens où
pas assez poussé,
et en fait le fait d'avoir un peu étiré le jeu dans ces trois styles de gameplay différents a un peu heurté le gameplay voiture qui avait pour le coup qui avait rendu The Crew 1 absolument excellent à mes yeux, qui avait d'ailleurs aussi une excellente histoire.
Sur le 2, ils se sont éparpillés.
Ouais, exactement. Ouais. Ce qui est assez dommage d'ailleurs aussi, c'est que sur le 1, il y avait une excellente histoire, on ne l'avait pas retrouvée dans le 2, et je ne sais pas si Motorfest va repartir un peu dans cette direction de narrative, même si dans le... Alors, il n'y a pas eu de gameplay... Il n'y a pas eu de gameplay dans l'Ubisoft Forward, mais pour ceux qui sont intéressés, je conseille plusieurs chaînes YouTube, comme par exemple Galax en français, qui ont effectivement eu une démo du jeu et qui ont montré des minutes de gameplay. Et effectivement, il y a l'air d'y avoir une petite dimension narrative, mais rien de bien poussé, un peu à la manière d'un Need for Speed, par exemple. Mais là, clairement, on se concentre seulement sur les voitures. Et c'est une excellente chose, puisque ça le rapproche non seulement un peu plus de sa compétition, comme Forza Horizon 5, mais avec un gameplay un peu plus arcade. Et c'est clairement pour moi une excellente chose. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, truc que j'ai. Alors, bon, ça, c'est clairement moi qui en connais beaucoup trop sur les jeux de course. Mais l'île hawaïenne du jeu, Oahu, a déjà été jouée dans un autre jeu de course qui s'appelle Test Drive Unlimited, qui était beaucoup plus simulation, simulation, mais d'une autre façon qu'un Gran Turismo, dans le sens où c'est un peu vivre la vie quotidienne d'un gars qui a des voitures de luxe. Ce qui a pas l'air assez. Ce qui a pas l'air ouf dit comme ça, mais le jeu était très plaisant. Même si une des plus grosses critiques, c'était que son monde n'était pas très varié, donc à voir s'il corrige ça. Même si en voyant les trailers et en voyant le gameplay, ça a l'air d'être.
Il a l'air très agréable à jouer, hein. Pour le coup, il a l'air vraiment très très agréable à jouer, hein.
J'ai l'impression qu'il a une bonne. En fait, c'est un peu comme Forza Horizon 5 à mes yeux, dans le sens où il y a une excellente balance entre arcade et simulation, même si plus arcade que simulation. Enfin, selon moi, après ça c'est ma théorie, c'est que les jeux de course ils peuvent être placés sur une espèce de grosse frise entre arcade et simulation, où le plus arcade t'as par exemple Mario Kart et le plus simulation t'as Assetto Corsa qui est genre un truc qui est même utilisé par des pilotes. Et pour le coup, là où par exemple au milieu parfait on aurait Forza Horizon. The Crew, il est un peu plus du côté arcade, mais assez peu pour être quand même assez, qui pour ne pas être ridicule ou ne pas
C'est
être
un
un peu cartonné.
entre-deux, en fait.
Exactement, c'est
Ouais.
un entre-deux qui est un peu plus côté arcade, mais qui a l'air quand même très plaisant à conduire, effectivement.
D'accord. Et alors, déjà, au niveau de le visuel un petit peu qu'on a vu, c'était très très beau. Même in-game, j'ai vu que c'est quand même
Oui,
assez beau.
c'est.
Il y a un joli traitement
Ouais.
des lumières, pour le coup, qui a l'air très très chouette.
Le petit bandeau n'est pas du vrai gameplay sur le trailer m'a fait un peu peur, mais en voyant effectivement le gameplay,
Ouais,
c'est quand même une claque.
c'est toujours compliqué les
C'est
quand ils ne mettent pas du vrai gameplay, on se dit oula.
ce petit message-là, il fait très
Est-ce que c'est pas un
souvent.
cache-misère?
Ouais,
Qu'est-ce
il fait
qui se passe? Pourquoi
très
tu mets pas
souvent
du
peur.
gameplay là?
Mais
Alors.
c'était clairement juste pour apporter un côté un peu plus cinématographique au trailer.
Cinématographique, ouais. Ouais. Et au final, franchement, ouais, c'est plutôt agréable. Ah, pour le coup, on peut vous passer le trailer. J'ai beaucoup aimé la BO.
La BO, effectivement, est
J'aime
très très
beaucoup les
plaisante,
BO
ouais.
là, des jeux en ce moment qui sont vachement. On sent qu'ils chopent un petit peu la mode, mais qu'ils essayent d'apporter toujours un peu autre chose. Il y a quelque
Oui,
chose d'innovant.
c'est toujours mixé avec un petit truc. Bah, par exemple, on l'a vu avec Prince of Persia, The Lost Crown, il y a quand même des petits instruments un peu, enfin, qui rappellent les origines de la série. Et là,
Ouais.
c'est un peu pareil, mais dans un
Dans
mode
un
plus
autre
festif.
style.
Mais bon,
Ouais.
le mieux, c'est juste que vous l'écoutiez.
D'autres attentes sur ce jeu peut-être que tu as eu en voyant le trailer?
Non, c'était
Comment est-ce
à
que
peu
tu
près
penses?
comme je l'avais déjà présenté à mes yeux.
Alors, il y a un jeu, alors peut-être dont je parlerai peut-être un petit peu plus tard, qu'on n'a pas eu de gameplay. Alors, il est annoncé pour septembre 2023. C'est Action RPG, c'est Skull and Bones. Alors, c'est un jeu, donc de ce qu'on voit, c'est un Action RPG. Et on est plus. J'ai l'impression qu'en fait, qu'ils ont voulu exploiter un petit peu le côté piraterie, mais qu'on avait eu un petit peu dans Assassin's Creed Black Flag. Et donc là, qu'ils ont vraiment eu plus envie de le pousser. Donc, on retrouve cette ambiance un peu yo-ho, un peu taverne, avec les batailles navales. On n'a pas eu de gameplay, donc je sais pas trop ce que ça va donner in-game. À voir, je sais que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le trailer parce que c'était une performance du groupe de musique Homefree, si je ne m'abuse.
Ah, pour le coup, je ne peux pas te corriger là-dessus.
Ouais, mais là pour le coup, on en parlera un peu plus. Et il y a la dernière grosse annonce, le truc que tout le monde attendait en plus, ça avait un peu leaké, c'est parce qu'ils en ont annoncé plusieurs, c'est tous les Assassin's Creed.
Il y a aussi Star Wars, mais bon,
Et Star Wars, et ça, c'est Star Wars, c'est encore
ça aussi
une autre grosse annonce.
il y a eu beaucoup de grosses annonces
Mais
cette.
il me semble que les Star Wars, c'était pas EA Games qui avait repris un peu
Alors
le
oui,
truc de
mais
Lucasfilm?
alors oui, justement, mais le truc c'est que leur contrat d'exclusivité s'est récemment fini, donc du coup il y a
D'accord.
donc du coup il y a plus ils ont plus cette exclusivité-là qu'ils avaient eu justement pour les sorties des Battlefront par exemple.
Ouf, adieu les microtransactions.
Dieu merci.
Ah.
On a vu ce que ça a donné avec
À
Battlefront.
Electronic Arts, je pense qu'on pourra en parler un petit moment
Oui,
d'Electronic Arts quand même. Hein.
ça peut être une il y a déjà eu déjà des no de nombreuses vidéos, de nombreux trucs comme ça,
Ouais, il y en
donc
a plein de gens qui. Quoi, ça, ouais, Electronic Arts, ils restent vraiment en surface à chaque fois pour le coup,
Mais
c'est très frustrant.
typiquement même c'est enfin il vient de se finir avec Jedi Survivor. Donc c'est on part clairement sur autre chose.
Ah, bah pour revenir un petit peu sur à nos moutons. À nos assassins. Bah déjà, on a le Assassin's Creed Nexus VR. Donc, parce que forcément, il y a la VR qui arrive de plus en plus aussi dans les nouvelles annonces. Il y a plein de jeux qui font des remakes, des adaptations en VR. VR, c'est casque de réalité virtuelle. Parce qu'on a en plus, on a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas hyper longtemps. C'est le PSVR 2, il me semble.
C'est possible, c'est
Il me
possible.
semble, avec une nouvelle technologie. Parce que il y a tout Samsung qui a participé. Enfin, il y a eu tout
Bah
un
après,
truc.
c'est la technologie VR est constamment en évolution, ça c'est normal de façon
Après,
générale.
espérons que les prix évoluent aussi, parce que bon, okay, comment
Ah,
vous dire que voilà,
alors,
c'est un
ils
peu
vont peut-être
compliqué.
évoluer, mais pas dans le bon sens.
Ah, ça dépend si ça se démocratise,
Oui,
on ne sait pas. Hein.
après, on croise les doigts, hein,
On croise les
évidemment,
doigts.
mais.
Bah, les jeux vidéo, c'était très cher aussi à une époque. Hein. Là, ça reste cher, mais ça reste moins cher. Et bah, du coup, en fait, ce qu'ils vont nous proposer, c'est les trois. Alors, attends, parce que j'ai noté, mais je ne les ai pas tous mis, mais il me semble qu'ils nous proposent le 2, le 3
Le black, je sais pas si c'est, non,
Non,
c'est
c'est
pas
pas Black
Black
Flag.
Flag, oui.
Alors, attends, on a. Attends, le Ezio, Connor, et qui est le troisième? Ah, et Cassandra, donc Odyssée.
Oui, effectivement.
Odyssée, c'est pas mal de le faire en VR. Parce que
C'est
l'open world était vraiment très très chouette, pour
effectivement,
le
mais
coup.
c'est assez, c'est mais pour le coup, c'est assez bizarre qu'on n'ait pas eu un opus plus vieux justement pour faire
Ouais,
découvrir
qu'ils aient pas mis
au
le 1. Ouais.
Ou le même le Black Flag si jamais, mais
Oui.
après c'est pas forcément effectivement un mauvais choix parce que c'est un monde qui a l'air effectivement très intéressant à explorer en VR, mais c'est après clairement on n'est pas partie de l'équipe Ubisoft, donc
Ouais, après le 2, ça m'étonne pas parce que c'est quand même un
ah
jeu
deux deux
iconique.
et
Enfin,
trois
le 2 et les 3, ils sont iconiques pour le
effectivement ça
coup.
c'est normal, c'était obligé un peu.
Et alors, il y en a un autre qui va sortir sur iPhone, Android et iPad, donc
Oui, il
iOS,
me
Android.
semble. Oui.
Ouais, c'est Assassin's Creed Codename Jed. C'est tous les petits jeux, en fait. J'ai l'impression qu'ils font pas mal de
Il y a
petits jeux
beaucoup.
qui sont un peu plus modestes, moins ambitieux, mais qui nous permettent d'aller dans d'autres.
Ouais, effectivement. Après,
Ouais.
surtout un des plus, enfin, ce qui m'avait l'air d'être un plus gros atout, c'est juste de customiser son propre assassin dans ce jeu-là, ce qui m'a l'air d'être le plus gros argument de vente du jeu, si je puis dire.
Puis c'est un côté free to play
Ouais,
aussi. Je pense qu'il
exactement.
y a le côté free parce que
Un très
forcément, mine
bon.
de rien, l'Assassin's Creed, c'est un budget, quoi. Surtout quand tu prends les jeux récents. C'est vrai que faire du free to play, ça peut être un moyen aussi de faire découvrir un petit peu la franchise à un
Oui,
plus large public.
après avoir ce qu'ils entendent par free to play, mais bon ça le marché des jeux mobiles par rapport à ça
Ça,
encore une
c'est tout.
fois
Ouais, ça, on pourra en parler un petit moment, ouais.
comme Electronic Arts on pourrait y passer des
Ouais, c'est
heures.
les fameux, ouais, les free to play. Mais en tout cas, les inscriptions pour la bêta sont gratuites. Alors, j'espère qu'ils vont pas nous faire une bêta en pay to win, ce sera un peu.
Ce serait dommage.
Ce sera
Après,
cool.
il pourrait faire l'inverse, à montrer une bêta, un peu comme Battlefront 2 en soi, faire une bêta qui a l'air tout gentille, toute mignonne en termes de monétisation, et après le vrai jeu sort et Voilà. Mais bon, ça, c'est on verra en temps voulu.
Bah, c'est l'idée pub, en fait.
Exactement.
C'est un côté, c'est comme les périodes d'essai, au final. Ou les démos. En fait, c'est des démos. Les jeux, c'est ce genre de démos, mais en plus, il y a plus de contenu, quoi.
Et après, bon, évidemment, on parle d'Assassin's Creed. On sait bien beau de parler des spin-offs, mais la grosse annonce, ça reste quand même Assassin's Creed Mirage.
Ah bah oui, qui avait leaké déjà un petit peu. Oui. Il y avait déjà 2-3 infos qui avaient leaké. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a un côté ressources parce qu'on incarne Basim, qui était un personnage du premier Assassin's
oui,
Creed.
Oui, mais surtout, ce retour aux sources, il n'est pas que dans l'histoire. Et ça, c'est une phrase de l'interview qui avait été donnée qui m'a vraiment fait lâcher un soupir de soulagement. C'est « Le combat direct sera un dernier recours ».
J'ai l'impression qu'ils ont pas mal d'évolutions sur le gameplay.
Exactement.
Ouais. Ça y est, ils ont voulu le renouveler un peu.
C'est surtout de la discrétion, ouais. C'est surtout de l'infiltration, et ça, je dis Dieu merci. Parce que, alors, Odyssée.
C'est vrai que les derniers, ils étaient.
Odyssée et Valhalla, c'était possible de faire de l'infiltration, mais clairement, c'était plus simple de juste arriver et de tabasser tout le monde.
Je pense que le Odyssée et Valhalla, ils ont voulu se faire plus permissif.
Oui,
en fait,
mais
pour s'orienter à un public un peu plus large.
Mais en fait, le truc, c'est qu'en voulant faire ça, en soi, ils ont un peu perdu l'identité de la.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens, mais quand Valhalla, même le trailer a été annoncé, tout le monde a dit c'est quoi cet assassin avec des haches de guerre. En soi, c'est pas une si mauvaise critique que ça, en fait, limite, tant qu'à faire, autant faire une nouvelle franchise, parce que là, en fait, effectivement, c'est tu te dis quand, moi, personnellement, je pense à Assassin's Creed, je pense justement aux lames cachées, je pense pas à un gros guerrier avec des haches de guerre.
Oui, et puis surtout que les lames cachées, tu les as pas tout de suite
oui.
dans le jeu, c'est qu'il y a un
exactement.
Certain temps avant que tu les aies, et ça, je l'ai compris quand j'ai testé Black Flag, justement, pour le coup, parce que moi, j'ai commencé avec Odyssey, et quelque part, je suis contente qu'ils aient fait des jeux un petit peu plus, entre guillemets, plus permissif, parce qu'en commençant avec Odyssey, ça m'a donné envie de m'intéresser un peu plus à la
oui,
franchise.
C'est vrai,
quand t'es un
vrai.
Peu plus casual gamer, c'est quand même un jeu qui est assez. Commencé par Valhalla ou Odyssey, ça reste facile à prendre en main, pour le coup.
Je vois ce que tu veux dire, oui. Surtout que les jeux d'infiltration de base, je vais pas dire que c'est un public niche non plus, puisqu'il y a
au début, c'était niche. Là, c'est.
Ouais, moins. Maintenant, plus du tout. Et c'est même d'ailleurs Star Wars Outlaws, dont on va parler plus
c'est
tard.
C'est des jeux assez exigeants, entre guillemets.
Oui,
il y a quand même une technicité
c'est
en fait.
C'est clairement
ouais.
pas le genre de jeu où tu peux prendre la manette et tu peux foncer comme tu veux.
Ouais.
C'est clairement un genre de jeu qui nécessite C'est presque des jeux de puzzle, les jeux d'infiltration en soi.
Ah oui, c'est une forme de jeu de puzzle, clairement.
Mais effectivement, le fait qu'ils repartent sur de l'infiltration pure, je trouve, une excellente direction après justement une petite pause de la série d'Assassin's Creed. Mon Dieu merci, ils en avaient besoin. Même si c'est plus la vache à lait que c'était à une certaine époque, Assassin's Creed.
Bah, c'est parce qu'il y a eu pas mal de critiques où les gens se sont plaints du fait que ça se répétait, du fait que bon, c'était un peu la même chose et qu'effectivement on perdait l'identité. Et je pense qu'ils se sont un peu laissés piéger par le côté il faut sortir un truc tous les ans.
C'est
pour ça que c'était Unity ou Syndicate qui était très buggé, qui n'était pas du tout terminé.
C'était peut-être les deux.
Je pense que c'était les deux où ils ont.
Et c'est à partir de là où ils ont mis un gros coup de frein. Ils ont fait effectivement. Là, on a peut-être poussé un peu le bouchon.
Mais
et
c'est
coup,
pour ça que Valhalla, c'est à ça qu'il a servi. En fait, le jeu, il était là pour durer un certain temps, suffisamment de temps pour qu'ils puissent après prendre le temps de faire un autre jeu. Et là, c'est super chouette hein, ce qu'ils ont l'air de faire. Déjà, visuellement, c'est une claque. Ça, c'est.
Quasi tous les jeux qui ont été présentés à ce
Ubisoft
Award
sont
des claques visuelles.
Et in-game, il a l'air. Parce qu'on a vu Ils nous ont mis du gameplay quand même. Ils ont mis pas mal de gameplay. Et
oui.
C'est ça que ça a l'air d'être pas mal renouvelé pour le coup. Bah, notamment aussi de.
Bah, c'est une version un peu. Je vais pas dire remasterisée, c'est pas ça le terme. Un peu plus évoluée des premiers Assassin's Creed qui étaient très discrétion.
Ouais. J'aime beaucoup le fait, j'ai l'impression qu'on peut utiliser un peu des éléments du décor. C'est qu'on peut faire tomber
c'est pas un élément qui est vraiment inconnu dans les jeux d'infiltration, mais c'est effectivement quelque chose qui n'était pas trop utilisé dans les premiers Assassin's Creed, qui étaient plutôt des parcours d'obstacles avec justement
côté parcours en fait
ouais, mixé avec de l'infiltration. Mais par exemple, je pense à un jeu d'infiltration qui ne parlera à absolument personne, mais par exemple The Way of the Ninja, qui était un jeu d'infiltration que j'ai beaucoup aimé et qui utilisait pas mal ça, où c'était justement par exemple faire tomber un champ, faire éclater une lumière pour attirer l'attention d'un garde et faire en sorte que ça s'assombrisse pour que tu puisses passer, ou ce genre de choses.
C'est pas simple à coder les jeux d'infiltration, parce qu'il faut que tu arrives quand même à faire des IA qui soient
exactement,
pas trop compliquées, mais en même temps pas trop faciles. C'est vrai
c'est très compliqué à balancer.
C'est un équilibre,
effectivement.
C'est un jeu d'équilibre.
Il y a nombreux jeux d'infiltration qui ont été limite moqués pour ça, parce que soit les ennemis deviennent omniscients, Soit ils sont aveugles, exactement.
Bah, peut-être qu'un truc qui pourrait pallier à ça, c'est les difficultés adaptatives. Tu sais, qu'on veut mettre un petit peu ça, parce que là, il y a beaucoup de gens qui râlent un peu sur les niveaux, tu sais, facile, normal, difficile, où justement, il y a une petite théorie où on pourrait faire un truc un peu modulaire en fonction de comment tu joues, jeu s'adapte.
Attention à ça. Alors ça aussi, encore une fois, un autre débat du... Putain, il y en a beaucoup, cette émission.
Ah bah, le jeu vidéo évolue, hein.
Exactement. Mais c'est ce débat de la difficulté modulable, etc.
Ouais.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec, dans le sens où, en fait, pour moi, le jeu vidéo reste quand même une expérience artistique, et il y a clairement, il y a l'intention de l'artiste, il y a l'intention de ce que le développeur veut, et en fait, avec ces difficultés déjà il y a le problème de donner trop de liberté au joueur, où il se sent perdu, où il sait pas si il va laisser tout, ouais. Il va laisser tout norme. En fait, si tu donnes trop de liberté au joueur, il va se sentir un peu surchargé, et donc du coup, typiquement, il va soit toucher à rien, soit il va toucher à quelque chose, ça va pas lui plaire, ça va commencer à le frustrer, il y a ce souci-là.
Tout le problème du jeu vidéo aujourd'hui, c'est qu'on veut des jeux qui nous laissent de plus en plus de liberté, mais il faut quand même qu'on soit un minimum guidé, en fait. Donc
ouais,
il faut que les développeurs arrivent à guider le joueur sans qu'il se sente trop piégé, en fait.
C'est pour ça que pour moi, le Easy to Learn, Hard to Master, c'est un des éléments clés du game design moderne. Je pense pas. Alors, ça, pour le coup, un exemple vidéoludique qui parlera à plus de personnes, Céleste, qui est pour moi un excellent exemple de, ouais, non seulement Easy to Learn, Hard to Master, mais aussi de pourquoi une difficulté non modulable est bonne pour le jeu vidéo à mes yeux. C'est que Céleste, c'est un jeu qui est... Enfin, après, elle est légèrement modulable, mais elle a juste un mode assisté. C'est pour les gens qui n'ont...
Casual gamers, quoi.
Exactement. Mais c'est un jeu qui est dur, Céleste. C'est un jeu, ouais, qui est extrêmement dur.
Bah, c'est ça, c'est tout le jeu de savoir. C'est, est-ce qu'on part du principe que le jeu vidéo, donc, on demande une certaine exigence? Donc il y a quand même un côté de maîtrise. Donc là, c'est toute la scène e-sport. Ou est-ce qu'on est sur un truc plus casual? Mais je pense que c'est un peu comme le sport en général. Tu sais, il y a le côté quand tu pratiques pour le plaisir, et puis il y a le côté quand vraiment tu veux aller à fond dans le truc et plus masteriser, quoi.
À la limite, la seule vraiment... Après, il y a aussi justement eu ce débat pas mal avec la série des Dark Souls.
Oui, Dark Souls, ouais. Et puis tous les Soul Likes aussi qui commencent à
se sortir. Mais après, il y a ça aussi, c'est qu'en soi, pour le coup, les jeux Souls... C'est des jeux qui sont connus pour être extrêmement difficiles.
Ils sont exigeants, ouais.
Donc en soi, est-ce qu'ajouter un mode facile, ça détruirait pas un peu le principe ?
Non, je pense que là, c'est vraiment, pour le coup, tout dépend du jeu que tu veux faire et du public auquel tu t'adresses.
Après, oui, c'est vrai.
C'est ça. En fait, je pense que je pense qu'il faut des deux, en fait. Mais je pense que chaque jeu doit être clair sur le niveau d'exigence, en fait, qu'il demande.
Mais pour le coup, parce que justement, on revient quand même à la discussion.
On était en train d'ouvrir une grosse parenthèse.
On ouvre une grosse parenthèse. je vais la refermer pour justement finir avec Assassin's
ouais,
Creed Mirage. Pour finir avec Assassin's Creed Mirage et sur cette option de difficulté. Si on regarde les jeux d'infiltration, il y a très rarement des options de difficulté pour les jeux d'infiltration. Et je pense que c'est voulu. C'est parce que justement, de la difficulté modulable sur un jeu d'infiltration, déjà comment ? Dans le sens où, est-ce que tu rends les ennemis plus sensibles à leurs environnements ? Et si c'est le cas, à quel point ? Et aussi, est-ce que potentiellement le nombre d'ennemis augmente ? C'est très compliqué à mettre une difficulté en plus, ouais, ou en moins sur des jeux d'infiltration, puisque comme les jeux de réflexion, c'est des expériences qui sont clairement pensées au préalable comme des puzzles, ou en mode, ok, donc on veut que le joueur agisse d'une certaine façon, résoudre les...
Ouais, c'est une énigme à résoudre.
Exactement.
En fait.
Donc je pense qu'ajouter de la difficulté à ça, ce serait très compliqué, voire impossible. Mais après, c'est clairement mon avis. Si jamais il y a un développeur qui est capable d'ajouter, de faire
et
de la difficulté
et
modulable.
Tout le truc d'Assassin's Creed, c'est que comme ils ont voulu s'ouvrir à un plus large public, se vulgariser, entre guillemets, bon, ça a été. Forcément, ils ont été obligés de se montrer plus permissifs. Mais là, c'est chouette qu'ils reviennent un petit peu là-dessus. Alors, même au niveau de l'histoire, parce que déjà, il faut savoir un truc, c'est que l'Assassin's Creed, ils aiment beaucoup jouer sur l'ambivalence bien et mal et toujours remettre en question. C'était un petit peu moins présent sur Odyssey. J'ai l'impression que c'était moins présent sur Odyssey. Voilà, là, je l'ai pas fait. Donc je sais pas.
C'était surtout présent sur la première trilogie en particulier.
Ouais,
Il y avait aussi cette double dimension du monde réel et
le
du
4
monde...
aussi. Il y avait.
C'est vrai, effectivement. Du monde réel et du monde un peu virtuel où justement on explore le passé.
Ouais.
À voir si ça va être repris dans Mirage, même s'ils ont l'air d'avoir abandonné un peu cette dimension là, et c'est pas forcément une mauvaise chose à mes yeux, puisque c'est ça.
Oui, parce que maintenant qu'on a compris en fait le concept, c'est vrai qu'il n'y a plus forcément ce besoin de montrer le monde réel à chaque fois.
Exactement, surtout que ça a ajouté un peu de complexité Ça ajoutait un peu de la complexité superflue dans le sens où les histoires dans le passé justement étaient déjà très complexes et très complètes. Et le fait d'ajouter une couche comme ça pouvait potentiellement la rendre plus confuse. Et je sais que, par exemple, j'ai des amis qui ont été assez... qui ont presque lâché le jeu juste parce que ça devenait vraiment un bordel, quoi. Mais ouais.
Ouais, il y en a qui ont lâché. Alors, et là aussi, je suis contente parce qu'ils retournent dans le monde arabe parce que ça se passe à Bagdad au 9e siècle.
Deuxième jeu qui se passe, qui se passe dans cette univers.
Alors, Bagdad est à son apogée à la pointe de la science, de l'art, de l'innovation et du commerce. Voilà, et après, on va. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu ce que j'aime beaucoup dans le synopsis, c'est qu'il dit au milieu de ce paysage urbain animé, un jeune orphelin au passé tragique de se frayer un chemin dans les rues pour survivre.
C'est un côté un peu Aladdin, cette histoire.
C'est ça. On incarne Basim, un voleur de rue rusé aux visions cauchemardesques, en quête de réponse et de justice. Après un acte de vengeance meurtrier, Basim s'enfuit de Bagdad et rejoint une ancienne organisation, les Hidden One. Au fur et à mesure qu'il apprend leurs mystérieux rituels et leurs puissants principes, il perfectionnera ses capacités uniques, découvrira sa véritable nature et comprendra un nouveau credo qui changera son destin comme il n'aurait jamais pu l'imaginer. J'ai l'impression qu'ils veulent un peu complexifier, mais développer le truc autour du credo, en fait, de l'origine de pourquoi les assassins...
Pourquoi les assassins, oui, exactement.
Je pense que d'un point de vue narratif, ils ont envie d'aller un peu là-dedans.
Et ça peut être très intéressant.
Ça peut être très intéressant.
Revenir, encore une fois, c'est un peu revenir sur les origines de la série et pourquoi...
Ouais, c'est surtout... La question,
qu'est-ce que les assassins au final, et c'est une excellente chose à mes yeux pour le coup.
Et j'aime beaucoup la BO
aussi.
La BO elle est vraiment très, très... De toute façon, la BO visuellement c'est magnifique, et effectivement il y a beaucoup ce côté discrétion parce que il y a des façons de se déplacer, tu peux jouer aussi avec des fumigènes, j'ai vu qu'il y avait un côté fumigène, mais ça c'était le cas aussi dans Black Flag, il y avait cette possibilité là. Bon, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses encore.
Juste faire une dernière petite parenthèse sur le Star Wars, vite
ouais,
fait.
Alors, ce que je te propose qu'on fasse, parce que de toute façon, on aura le temps, je donne juste la date de sortie d'Assassin's Creed Mirage qu'ils ont annoncé pour le 12 octobre 2023. Ah, ils ont mis PC, PlayStation 4, Xbox One. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle génération? Je sais pas. On vous passe la bande-annonce en VF et après, on te laisse terminer avec Star Wars
Outlaws.
Basim Ibn Isra, es-tu prêt à renoncer à celui que tu pensais être ?
Je le suis.
Prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher ?
Je le suis.
Es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre ?
Je le suis.
Tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. N'oublie jamais les principes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair des innocents. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Come on! présent, tu fais partie de ce qu'on ne voit pas.
Dernière parenthèse avant de parler de Star Wars, je suis contente de voir un jeu qui a l'air cool, positif et sans message douteux qui se passe dans le monde arabe et où on parle
arabe. Exactement, c'est vrai que ça fait plaisir.
Franchement, après, ça, pour ça, ça me fait plaisir.
Sans message douteux quand on parle d'assassins.
Oui, mais les assassins, c'est.
Oui, c'est clairement fictif. Oui,
alors, bien. Star Wars. La fin du pay to win, on espère.
Oui, ça, oh Dieu merci. Alors, du coup. Alors pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui ont du coup découvert ce monde vidéoludique récemment, Lucasfilms avait signé un contrat d'exclusivité avec EA il y a maintenant 5 ans.
Petite parenthèse, il faut savoir qu'EA dans le million les surnomme l'Empire du Mal.
Oui,
c'est Evil Empire.
J'allais faire une petite parenthèse dessus. Mais donc du coup, oui, ils avaient fait un contrat d'exclusivité où seulement EA avait le droit de faire des jeux Star Wars. Et ils ont fait, alors du coup, 4 jeux, si j'en oublie aucun, deux jeux Battlefront qui étaient des jeux de tir à la troisième personne, Star Wars Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Les deux premiers Battlefront étaient, le premier Battlefront était moyen sans plus, le deuxième était une aberration absolue de monétisation qui avait d'ailleurs causé, alors du coup je vais éviter de faire une trop grosse parenthèse, mais ça avait même causé des changements de loi sur les coffres dans les jeux vidéo dans certains pays, genre typiquement en Belgique, où les jeux qui avaient des lootbox comme on les appelle étaient interdits.
Qu'ils ont désactivé les lootbox de toute façon suite au scandale,
hein. Exactement, et c'est pour montrer à quel point EA est capable de faire des choses vraiment.
Ils ont formé plein de studios, enfin c'est.
Oui, alors c'est pour le, si vous voulez faites vos propres recherches parce que sinon je vais faire une parenthèse de 2 heures là-dessus si je continue. Mais je vous conseille énormément de faire des recherches dessus ou de regarder des vidéos dessus puisque l'histoire d'EA est vachement intéressante mais dans le pire sens du terme. Bref. Et donc du coup Jedi Fallen Order qui a été le gros succès du coup de cette saga EA qui a été une claque absolue. Jedi Survivor qui était pas aussi bien que le premier, mais qui était quand même excellent. Mais il était quand même bon. Et là, du coup, on arrive à Star Wars Outlaws. Du coup, dans cette présence. Dieu merci, cette parenthèse se finit. Et du coup, donc après le succès de ces deux précédents jeux, en soi, il part sur une direction très différente en termes de gameplay. Déjà, rien qu'en termes du personnage principal, puisque là, on ne joue pas un Jedi, mais on joue plus un personnage à la Han Solo. Ce qui est quand même le rêve de beaucoup de fans, je pense, après autant d'opus jouer des Jedi.
Avec ça et Boba Fett.
Aussi.
Mais qui a été annulé. Il y avait un jeu sur Boba Fett, mais qui a été annulé. Peut-être on le reverra, je sais pas.
À voir un jour, pour le coup. Et donc, du coup, c'est pas étonnant de voir autant de hype autour de ce titre, et surtout que ça promet des styles de gameplay très différents. Là où Fallen Order et Survivor, c'était beaucoup d'exploration et beaucoup de combats au corps à corps, là, on a surtout de l'infiltration, du jeu de tir à la troisième personne et des phases en véhicule, comme le speeder ou même des combats spatiaux, qui étaient d'ailleurs quelque chose que beaucoup de gens attendaient et qui n'étaient pas du tout présents dans la saga EA, malgré le fait que les anciens Battlefront, ceux avant EA, avaient des combats spatiaux qui manquaient cruellement à Star Wars Battlefront, et même Battlefront 2 en avait, mais qui était très... Qui n'avait pas beaucoup de profondeur en soi. Donc à voir si ça va changer dans un jeu solo, c'est toujours sympa à préciser quand même, surtout avec toute la mode des jeux en ligne constamment. Et là, c'est un jeu solo qui a l'air quand même très concentré sur narratif, très concentré sur son gameplay, infiltration et tir. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Le gameplay, en plus, on a eu un trailer gameplay assez généreux parce qu'on a eu quand même 10 minutes de gameplay. Ouais.
10 minutes de gameplay, ce qui est très rare pour être souligné. 10 minutes de gameplay non interrompu présenté par les studios. C'est la preuve quand même qu'ils sont très contents de leur gameplay, qu'ils sont très confiants.
Ouais, et puis je pense qu'ils ont aussi envie de renonner un peu ces lettres de noblesse Star Wars qui a un peu pris cher là ces dernières années.
Bon, quand même, avec Fallen Order, ils ont quand même eu une petite période de grâce, on va dire. Mais voilà, ouais, je pense qu'on a couvert toute cette convention, toute cette présentation.
On a une date de sortie pour Star Wars ?
Alors, tu sais quoi, je te laisse faire la petite conclusion pendant que je cherche, parce que je te cache pas que je n'ai pas vu. Je ne crois pas qu'on ait de date, non.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est tout le.
Alors, ah, si, on a 2024. C'est la seule date qu'on a.
Ok, 2024. Donc, on est. En fait, on est toujours sur cette fin d'année, début d'année prochaine, quoi. Eh ben, écoute, on attend ça. Et puis, en attendant, on n'a plus qu'à se rabattre sur le Assassin's Creed plateforme. Et du coup, parce qu'on... Assassin's Creed plateforme, qu'est-ce que je dis? Le Assassin's Creed...
Lost Crown.
iOS et Android.
Oui, aussi.
Parce que du coup, on n'a pas expliqué où ça se passe. Ça se passe dans la Chine ancienne. Voilà, c'est dans vrai. Le 3e siècle.
Ce qui explique le codename Jade, en soi.
Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui ont envie de partir un petit peu dans cette période-là... On peut la bêta est disponible gratuitement et nous on n'aura plus qu'à voir si c'est du free to play ou du pay to win.
On verra.
Ça c'est le grand débat. Écoute, je pense qu'on a eu de quoi faire. Là pour le coup, je pense qu'on a largement eu de quoi faire avec cette petite convention et on attend la suite et on attend de toute façon on fera un retour sur les jeux dès qu'ils seront sortis. Je sais pas du tout lequel tu vas tester en premier, je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit Prince of Persia.
C'est très possible.
Ouais, je pense que va y avoir moi je pense que ça va se tâter entre Prince of Persia et Assassin's Creed à mon avis. Mais je crois que le premier qui sort
c'est Prince of Persia.
Donc ça va partir sur Prince of Persia. Merci beaucoup en tout cas et on se retrouve peut-être pour parler du Nintendo Direct.
C'est très possible.
Qui a eu lieu le 21 juin où il y a des belles annonces aussi qui ont été faites.
Effectivement, et malheureusement pour nos auditeurs, je pense qu'il y a des risques que je parte dans des parenthèses encore plus grosses.
Écoute, c'est pas grave, c'est bien. C'est au moins le podcast fera une heure, pas une demi-heure, c'est pas grave. Ça nous en fait toujours plus. Comme on dit, plus il y en a, mieux c'est. C'était Chaud Devant, spécial jeux vidéo, Summer Game Fest. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site d'Esprit Occitanie ainsi que sur l'application. On vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end et on se retrouve très bientôt pour un peu de gaming.